Bon, des écoles sont fermées par crainte de la présence d'un variant. On sait que la santé publique a dit, si on n'a pas la confirmation, on va quand même agir si on a l'impression que c'est ça. Donc, 4 écoles, Marguerite Jouvet à Québec, l'école primaire Monseigneur Gervais à Saint-Bruno, les Grands Êtres, c'est à Saint-Laurent, et aussi l'école primaire de Fontainebleau à Blainville. D'ailleurs, la direction de l'école est assez claire là-dessus. On ferme et on demande aux parents que les enfants qui ont fréquenté l'école passent rapidement un test de dépistage et la date de réouverture sera déterminée en collaboration avec la santé publique. En même temps, on a vu le bilan en fin de semaine. Donc, les chiffres sont intéressants, c'est-à-dire qu'on a, et je cite le ministre de la Santé, eu la meilleure journée depuis le mois de septembre, mais en même temps, préoccupation au niveau des variants. On fait le point avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, on voit milieu de travail, les écoles, variants, puis on comprend là, ce que vous dites depuis déjà un bon bout de temps. Un variant, ça veut dire beaucoup de cas au même endroit.
Oui, tout à fait. Les variants, c'est une façon pour le virus de mieux s'adapter à l'espèce humaine. Ce qu'il faut savoir, c'est une sélection naturelle du virus. Hein. C'est le virus qui apprend à mieux s'adapter, à s'attacher à nos propres cellules. Ils sont pas forcément plus dangereux, mais la tendance qu'on voit actuellement, c'est qu'ils sont beaucoup plus transmissibles. Donc, c'est la sélection naturelle du virus. C'est un processus normal dans ce genre de choses-là, puisqu'il y a tellement de gens infectés que le virus apprend finalement à vivre avec nous. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les variants sont présents au Québec, et quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays sur la planète, une fois que les variants entrent dans une population, ils ont tendance à prendre le dessus sur la vieille souche, on va appeler ça sauvage, qui était là précédemment. Et même si au Québec, il faut quand même le reconnaître, et c'est important de le souligner, on a eu un bilan qui est quand même en amélioration, on a des chiffres qui sont les plus bas depuis maintenant quelques mois, et on a, je dirais, on a une espèce de redondance là, à avoir ces chiffres bas maintenant depuis environ une semaine. Le seul hic, je vous dirais, c'est qu'on a atteint une espèce de plancher et on est tranquillement, mais très difficilement, on descend en bas de ce plancher. On voit que 600, 700, on peut pas descendre plus bas que ça pour l'instant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on vous dit qu'il y a 600 cas, on teste pas tout le monde, évidemment. Donc, ça se peut qu'il y en ait 5 fois plus. Et donc, la transmission possible des variants, surtout dans les écoles. Et rappelez-vous, les écoles, c'est malheureusement, on le sait, pour tous les virus respiratoires, c'est une zone de transmission extrêmement efficace.
Bon, justement, à partir de ce que l'on sait des variants et de la contagion donc rapide et qui touche plus de gens, est-ce qu'il doit y avoir une stratégie différente? On connaît les mesures qui existent, distanciation, le port du masque à l'intérieur des écoles. Est-ce qu'on doit changer l'approche face aux variants par rapport à la souche originale?
Ben, écoutez, là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on garde les écoles ouvertes ou les écoles fermées. Il est clair que pour le bien-être des enfants, pour que les choses s'améliorent, il faut garder les écoles ouvertes parce que c'est ce qu'on veut faire. Et même si il y a des inconvénients à tout ça, il faut regarder l'ensemble des mesures positives de garder les écoles ouvertes par rapport au fait que c'est un endroit où de la contamination peut se faire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Là, il faut s'assurer que les masques soient distribués dans les écoles, que les masques soient bien portés, que toutes les mesures soient aussi bien respectées, parce que c'est une chose de distribuer des masques et de mettre des mesures en place, c'est une autre chose de les respecter. Je vous donne juste un exemple. Nous, on s'aperçoit que dans les hôpitaux, lorsque les gens viennent, un certain pourcentage de ces gens-là ne portent pas leur masque correctement et on est obligé de les corriger à chaque fois. Donc, les gens ont un masque, mais ils ne portent pas forcément correctement. Donc, ça, c'est une chose à faire à l'école. L'autre chose, c'est de faire du dépistage important dans les écoles, donc de dépister le plus rapidement possible et le plus, je dirais, largement possible pour essayer de ramasser des cas qui sont asymptomatiques. N'oubliez pas que ce sont des enfants, ils sont habituellement très peu malades pour l'immense majorité d'entre eux, ils peuvent être symptomatiques et ils peuvent être des sources de transmission. Donc le dépistage local, rapide, ce serait, le niveau supplémentaire pour aller augmenter la capacité dans les écoles à pouvoir isoler des cas positifs asymptomatiques rapidement et casser des chaînes de transmission.
La semaine de relâche, ça va être un moment charnière, là. Voir un peu comment les gens vont se comporter, est-ce que les règles vont être respectées pour pas revivre ce qu'on a eu comme situation, par exemple, à Noël.
Tout à fait. Donc, c'est la semaine de relâche, ça va être un comportement, je dirais, sociétal de l'ensemble des Québécois. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas voyager ou pas beaucoup, donc les voyages sont à peu près mis de côté. Donc, les gens vont devoir rester au Québec. Il faut qu'ils fassent des activités. Donc, il va falloir que les gens respectent toutes les mesures. On sait que les cinémas vont rouvrir. On sait, par exemple, que les gens vont vouloir peut-être aller dans les centres commerciaux, les centres d'achat. Donc, tout ça mis ensemble, il va falloir qu'il y ait quand même une certaine autodiscipline de la population pour ne pas commencer à avoir une situation qui se détériore, alors que maintenant, elle est quand même relativement améliorée depuis le début janvier, parce qu'on a fait beaucoup de chemin, rappelez-vous. On avait dépassé 3000 cas une journée au début du mois de janvier, et là, on est rendu à peu près 600-700 cas. Donc, on a quand même fait un bon bout de chemin, surtout qu'on n'a pas encore beaucoup de vaccins. Alors, l'idée, c'est que dès qu'on aura des vaccins, ça va peut-être casser encore beaucoup plus le risque de transmission et des variants et du virus lui-même. On le voit dans les pays qui ont beaucoup vacciné.
Justement, parlez-moi d'Israël, où le taux de vaccination, non seulement de la première dose, mais même de la deuxième, est très élevé. Ils ont, en fait, permis la reprise de certaines activités. Qu'est-ce que l'expérience d'Israël enseigne sur les vaccins?
Ben, ça montre que Israël est un pays qui testait énormément, une population, on va dire, similaire à celle du Québec, mais il testait quasiment 4 fois plus que le Québec. Et donc, le nombre de cas était plus élevé et probablement reflétait ce qu'on avait au Québec à peu près. Donc, ils avaient environ 10 000 cas par jour. Il y avait certaines difficultés à contenir l'infection en Israël, mais qui étaient propres à certains segments de la population israélienne. Mais là, ils ont lancé une campagne de vaccination massive, dans le sens que quasiment 90% des gens de plus de 60 ans ont reçu leurs 2 doses. Donc, ce sont les gens qu'on hospitalise, qui décèdent, etc. Une grosse partie de la population plus jeune a également reçu ces vaccins. Vous savez, ils vaccinent les 20 à 34 ans en pleine santé, qui sont déjà à peu près 30% ont reçu leur 2e dose dans ce groupe d'âge-là. Donc, ce que ça montre que quand vous vaccinez beaucoup, le nombre de cas diminue de façon importante et à partir de là, vous pouvez retourner à une vie normale et c'est ce qu'on veut tous. On veut tous être capables de retourner dans les gyms, au restaurant, etc., etc. Et donc, si vous voulez arriver à un retour à une vie normale, la seule solution, c'est le vaccin à moyen terme parce que sinon, c'est toujours des mesures de restriction et on ne peut pas vivre éternellement dans des mesures de restriction. Parce qu'on a, regardez, tout ce qu'on fait, c'est confinement, couvre-feu, distanciation, masque. Donc, on met des barrières, mais et dès qu'il y a une école, avec une éclosion, on ferme l'école, etc. Donc, on est toujours dans un, si vous voulez, on est une guerre en arrière du virus. Le vaccin, c'est d'être une guerre en avant du virus et éventuellement de pouvoir protéger une tellement grande partie de la population que le virus va disparaître. Alors, et puis là, il faut être très proactif. Bon, Israël, par exemple, on sait qu'en Israël, il y a eu 1 ou 2 décès chez des femmes enceintes jeunes en bonne santé dues à la COVID-19 parce qu'elles n'avaient pas été vaccinées du fait que le vaccin, c'est vrai, n'a pas été beaucoup testé chez les femmes enceintes et on est toujours très précautionneux quand on donne un vaccin aux femmes enceintes. Mais avec ce qui est arrivé, ils ont décidé de vacciner aussi les femmes enceintes. Donc, en se disant que le jeu en valait la chandelle. Donc, c'est le genre de stratégie d'adaptation qu'il faut aller très, très rapidement.
Merci, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss. Voilà pour ce qui est des vaccins.